Le journal Yann Ezler.
Bonsoir. Une étude qui confirme que le télétravail est réclamé par les employés, y compris les frontaliers. La pandémie a fait évoluer les mentalités. Un consensus se dessine pour faire augmenter le taux de home office à 40%. Le budget de l'armée suisse va certainement prendre l'ascenseur. Le Conseil national a accepté une motion visant à l'augmenter progressivement dès l'an prochain. Objectif passer de 5 à 7 milliards de francs d'ici à 2030. Stan Wawrinka met fin à plus d'un an et 4 mois de disette en tennis. Le joueur vaudois a dominé l'américain Reyi Opelka au tournoi de Rome et n'avait plus gagné sur le circuit mondial depuis janvier de l'an dernier. Enfin, pour ce qui est de la météo, demain, il y aura du soleil. Malgré quelques nuages, les températures atteindront des maxima à 23 degrés. Bosser depuis la maison, une pratique qui s'est considérablement développée depuis mars 2020 et le début de la pandémie. Un accord à l'amiable entre les autorités françaises et suisses a permis de déroger à la limite de 25% de télétravail pour les frontaliers notamment. Ce régime dérogatoire prendra fin le 30 juin. Dans ce contexte, les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud ont souhaité un état des lieux sur les pratiques de home office des frontaliers, qui sont quand même plus de 65 000 dans l'arc jurassien. Étude menée par le bureau BAS s'est présenté ce matin. Plus de 1000 entreprises y ont répondu. Pour le conseiller d'État vaudois Pascal Broulis, cette étude doit servir à faire augmenter le taux de télétravail lorsqu'il est possible.
Elle va nous aider à pouvoir codifier potentiellement une relation un peu différente avec le télétravail, d'informer la Confédération. Ça, ils auront l'étude, comme d'autres cantons suisses l'auront aussi. Et puis surtout aussi la partie française, puisque eux devront peut-être aussi déroger. Aujourd'hui, on vit sous l'ère d'une dérogation. Pendant la pandémie, on a accepté de déroger aux pratiques européennes. Et donc, à terme, de conduire aussi l'Europe, d'être un peu plus pragmatique sur la question du télétravail en zone transfrontalière.
Il ressort notamment de cette étude que près de 40% des entreprises qui proposaient des possibilités de télétravail en février 2022 ne le faisaient pas avant la pandémie. Le but désormais est de faire perdurer cette pratique pour répondre aux attentes et besoins des travailleurs. On écoute Nicolas Boudin, directeur financier de Tagueyer.
Plus que l'entreprise qui doit mettre en œuvre le cadre pour, c'est les employés qui de facto aujourd'hui l'ont totalement assimilé comme un nouvel élément dans leur gestion, leur rythme de vie. Et donc c'est l'employé qui le demande et l'entreprise qui accède à cette demande parce qu'elle a mis en place les outils pour y répondre, l'organisation du travail pour y répondre. Et aujourd'hui, c'est finalement un consensus qui est né de lui-même, mais porté par les employés au départ quand même.
À vos yeux, quel serait le temps de télétravail idéal ?
Alors nous, pour l'avoir un peu discuté en interne, et aujourd'hui on a eu des discussions qui ont corroboré ce qu'on avait en tête, c'est 2 jours paraît quelque chose qui convient à l'employé. Pour une entreprise, ça permet quand même d'avoir un fonctionnement qui ne soit pas complètement extériorisé, parce qu'il y a besoin que les gens se rencontrent. Donc on va dire 2 jours par semaine, ça semble un bon consensus pour tout le monde.
Un dossier réalisé par Jean-Paul Picci. Et des deux côtés de la frontière, il y a un consensus pour songer à augmenter le taux historique de 25% de télétravail maximal, acté au niveau européen à 40%, soit par plus de 2 jours par semaine. L'inflation pèse sur les fournisseurs de l'industrie horlogère suisse. Ils souffrent particulièrement de la hausse des prix des matières premières, notamment les métaux industriels comme l'acier et le cuivre. Certains anticipent une détérioration de leur marge pour cette année, selon une enquête de l'agence AWP. Les délais de livraison se trouvent également fortement rallongés. Une société chaudefonnière rejoint Acrotech. Le groupe jurassien a annoncé l'arrivée d'Orline dans sa fédération d'entreprises. La société chaudefonnière est spécialisée dans la fabrication de masses oscillantes haut de gamme depuis 1978. Elle compte 35 collaborateurs qui viendront donc s'ajouter aux plus de 2000 que compte Acrotech. Une affaire de violence intrafamiliale devant le tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Rue. Un jeune homme de 19 ans au moment des faits a été reconnu coupable de menaces, tentative de lésion corporelle simple par dol éventuel, contrainte et injure. Ses parents et sa sœur figuraient parmi les victimes. Le tribunal a toutefois renoncé à une peine de prison ferme au profit d'une mesure institutionnelle. Léonard Reichen.
Le fils dans le rôle du prévenu, les parents dans le camp des plaignants. L'audience s'est tenue dans un contexte émotionnel peu banal. Le jeune homme, adopté à 3 mois par cette famille neuchâteloise, a multiplié les actes pénalement répréhensibles au cours des années 2020 et 2021. Amis, infirmiers en psychiatrie, policiers et même sœurs et parents étaient visés. Le prévenu est même allé jusqu'à menacer les membres de sa famille avec un couteau de cuisine et une paire de ciseaux posés sur le cou du père. Une famille adoptive qui a tout tenté avant de faire face à la violence violence et la peur. L'effet bénéfique de la procédure a été de mettre un stop, comme l'a déclaré le procureur. Le tribunal a condamné dans un premier temps le prévenu à une peine de 22 mois de prison ferme, dont 14 pour tentative de lésion corporelle simple par dol éventuel, pour des coups donnés à sa victime lors d'un passage à tabac à Serrières. Le tribunal a toutefois décidé de prononcer une mesure institutionnelle en raison d'un grave trouble de la personnalité du prévenu qui renforcerait le risque de récidive. C'est l'autorité d'exécution des peines qui décidera si la priorité sera mise sur un milieu fermé ou ouvert. La possibilité de faire bénéficier le prévenu de mesures de réinsertion pour jeunes adultes a été abandonnée, faute de place dans l'unique établissement roman.
Et toujours devant la justice, un ex-député au Grand Conseil neuchâtelois a comparu ce matin. L'ancien UDC, Jean-Luc Piren, comparaissait devant le tribunal régional de La Chaux-de-Fonds, suspecté d'avoir joué un rôle indirect dans une arnaque internationale. En proie à des difficultés financières, il avait accepté de jouer les intermédiaires en mai 2021. Il avait reçu des sommes d'argent qu'il avait transférées au Bénin. Après 9 jours, il avait coupé les ponts avec son commanditaire, mais le ministère public requiert une peine de 20 jours amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans. Jean-Luc Piren, de son côté, réclame l'acquittement, jugement rendu le 23 mai. L'arrivée du service d'éducation de rue au Val-de-Rue entraîne la fermeture du centre de jeunesse. Ce service a débarqué dans les deux vallées, Val-de-Travers et Val-de-Rue. En début d'année, la fondation Carrefour, qui gère les éducateurs spécialisés, était déjà présente dans les montagnes avec pour objectif d'aider les jeunes en difficulté entre 10 et 25 ans. Un service qui se veut différent de ceux proposés par les centres de jeunesse. On écoute les précisions de Bernard Marchand, directeur de la fondation Carrefour.
C'est vrai que sur le Locre et la Chaux-de-Fonds, nous sommes actifs depuis 2001, donc ça fait 21 ans cette année. Et nous avons une collaboration très intelligente entre les centres, les services d'animation de la Chaux-de-Fonds et du Locre. Parce qu'en fait, même si les jeunes peuvent être les mêmes, nous n'avons pas du tout le même travail. On travaille vraiment dans les interstices du filet social, c'est-à-dire que nous laissons les professionnels qui sont sur le terrain s'occuper des jeunes dont ils s'occupent. Et nous, nous avons, par notre souplesse d'intervention et notre rapidité d'intervention, la possibilité de nous occuper de ces mêmes jeunes, mais dans des suivis qui sont différents et qui sont complémentaires entre le travail de rue et l'animation socio-culturelle.
À Val-de-Rue, la commune profite de l'arrivée du service d'éducation de rue pour fermer le centre de jeunesse de Cernier, que les autorités voient comme moins développé en termes de prestations. Jean-Claude Brechbuller, conseiller communal en charge de l'éducation et de la jeunesse.
Jusqu'à présent, on a eu le centre de jeunesse à Cernier qui a fait son travail, qui l'a fait très bien. La fondation Carrefour s'est proposée avec une prestation que je me permets de dire supérieure. Ce sont des éducateurs de rue qui viendront dans le terrain, qui viendront également avec leur véhicule itinérant dans les villages qui peuvent être de Dombresson, de Montmolin, de Savanier, j'en passe.
Même si le service d'éducation de rue ne prétend pas avoir les mêmes services que le centre de jeunesse, pour vous, il y a doublon?
Il y a doublon, au sens que, fortuitement, ce service-là, il est gratuit. Eh bien oui, le centre jeunesse était payant quand même assez cher pour une commune, et puis augmenter ses prix aussi par la suite. Ça a été un concours de circonstances qui n'était pas voulu à la base, mais c'était un concours de circonstances qui s'est présenté ainsi, avec un service qui est offert maintenant, de par le canton également.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker. Et le centre de jeunesse était financé à hauteur de 56 000 francs par la commune de Val-de-Rue. Une hausse du montant de l'enveloppe à 70 000 francs venait d'être proposée. Eva Prod, cela joue drôle et décalé. Pour ses 20 ans, la troupe présente la comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs, à découvrir jusqu'au 22 mai au Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds. Cette pièce est tirée du film sorti en 1986 qui met en scène un fleuriste qui doit faire face à une plante carnivore, elle-même personnage de la comédie musicale. Alors après avoir touché un large répertoire en 20 ans, c'est un choix particulier pour cet anniversaire, comme l'explique Floriane Isley, directrice d'Eva Prod.
C'est quelque chose de très différent parce que ça ressemble à une pièce de théâtre avec plein de musique géniale dedans. En fait, il faut des pros pour monter ça. C'est compliqué et puis ça demande une extrême précision. On a un plateau tournant, il faut être au taquet sur comment ça se passe, il faut avoir la vision de l'espace en même temps que de la voix. Enfin, c'est l'avantage aussi de la pièce, c'est qu'il n'y a que, entre guillemets, 8 rôles. On ne peut pas faire comme à Broadway, engager 25 professionnels. Et là, c'était possible de le faire à ce moment-là, dans un super spectacle.
Vous dites que c'est différent. C'est quel type, finalement, de comédie musicale?
Je pense que c'est à la fois très drôle, c'est décalé, c'est loufoque et très touchant. Les deux personnages principaux, qui sont des personnages maladroits, mal à l'aise en société, qui se laissent avoir, et puis C'est vraiment eux qui font le côté comique, mais je dirais peut-être comme dans un film de Woody Allen. Quelle différence, c'est que c'est, cette comédie musicale, c'est une parodie de film d'horreur. Donc il n'y a pas des choses affreuses quand même à voir, mais quand même, il y a quand même des gens qui se font manger par une plante, et puis c'est assez marrant.
Les représentations de la petite boutique des horreurs se tiennent jusqu'au 22 mai à La Chaux-de-Fonds. C'était pressenti, l'armée suisse disposera de 2 milliards de francs de plus dans son budget annuel qui passera à plus de 7 milliards d'ici à 2030. Le Conseil national l'a voté ce lundi en ouverture de la session spéciale par 111 voix de droite contre 79 de gauche avec celle des Verts libéraux. Le budget militaire n'a cessé d'être réduit en importance depuis 30 ans, mais avec la guerre en Ukraine, la majorité du Parlement veut remettre l'armée suisse à niveau. Le national a-t-il rendu ce 9 mai la Suisse plus sûre? On écoute le Conseil national UDC Valaisan, Jean-Luc Adore.
Ah non, parce que ce que le Conseil national vient de donner, c'est un signal politique, mais c'est un signal fort. Certaines illusions sont terminées. Il y a la guerre en Europe, une guerre conventionnelle. Et si nous devions mener une guerre de ce type en Suisse, eh bien, nous ne serions pas prêts. Donc maintenant, il va s'agir de mettre ça en musique. C'est le rôle du département de faire des propositions concrètes pour, on va dire, remonter en puissance à court, moyen et long terme. C'était le devoir du politique de donner ce signal qui crée des conditions pour améliorer sur la durée la sécurité de la Suisse et de sa population.
Et comme un seul homme, la gauche s'est opposée à une dépense qu'elle juge inutile. S'il faut renforcer la défense du pays, c'est contre les cyberattaques ou les missiles, pas avec des chars, clame-t-elle. Parmi les opposants à la motion, les Verts libéraux, pourtant favorables à l'achat du nouvel avion de combat F-35. On écoute le vaudois François Pointet.
En fait, c'est une carte blanche au Conseil fédéral, ou plus particulièrement au DDPS, pour dépenser de l'argent. On ne sait pas comment, on ne sait pas quel va être le développement de l'armée. On nous dit juste on va accélérer la planification des acquisitions. Et puis quand on voit la capacité qu'a Arma Suisse de faire des acquisitions sans problème, on peut douter que cet argent soit bien utilisé.
Il n'y a pas urgence aujourd'hui à renforcer l'armée?
Mais il y a d'autres urgences. Alors il y a urgence à savoir ce qu'on fait avec notre armée. Il y a urgence à la rendre moderne. Il y a urgence à l'équiper complètement. Mais il n'y a peut-être pas urgence à sortir des léopards de la cave, ou bien alors à être un peu émotionnel et puis à garder des F-5 Tiger.
La motion qui exige une augmentation progressive des dépenses de l'armée pour qu'elle représente 1% du produit intérieur brut en 2030 doit encore être ratifiée par le Conseil des États. François Fillon a été condamné, lui, en appel à un an de prison ferme. L'ancien Premier ministre français a également écopé de 375 000 euros d'amende et de 10 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Cette dernière s'est vue aussi infliger 2 ans de prison avec sursis et également 375 000 euros d'amende.
RTN, il est 18h13.
Sport.
Une bonne nouvelle en tennis, Stan Wawrinka renoue avec la victoire sur le circuit ATP. Plus d'un an et 4 mois après son dernier succès, le joueur vaudois a dominé l'américain Rei Opelka au premier tour du tournoi de Rome. Il l'a emporté en 3 manches, 3-6, 7-5, 6-2. À 37 ans, Stan Wawrinka a démarré comme un bon vieux diesel avant de breaker l'américain à 2 reprises dans le 3e set. Il met ainsi fin à plus de 450 jours de disette. On l'écoute.
C'était pas facile forcément quand on cherche cette confiance en match. En tout cas, mon niveau est bien meilleur qu'à Monaco. J'ai passé énormément de temps sur le terrain et au final, pour vraiment retrouver un niveau qui me plaît, en tout cas actuellement. Le début de match a été compliqué avec pas mal d'hésitations. On ne peut pas s'entraîner à jouer des matchs. Il n'y a que la compétition qui fait que justement on retrouve ses habitudes. Donc on retrouve le côté mental où il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut jouer juste. Et ça a été difficile aujourd'hui. J'ai su rester patient, j'ai su rester positif. Je suis content d'être là, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Je sais que et je suis conscient que ça prend du temps, mais je suis vraiment très content de cette victoire.
Des propos recueillis par Hélène Scott-Smith. Et au prochain tour, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Laszlo Djere. Dans le tableau féminin, Victoria Golubic a perdu face à Victoria Azarenka au premier tour. Elle a été dominée par la Bélarusse en 2 manches, 6-3, 6-0.